Bienvenue sur le podcast Madame Innove, épisode numéro 8. Vous écoutez le podcast Madame Innove, dédié au partage d'expériences entre femmes entrepreneuses et innovantes dans leur vie de tous les jours. Découvrez des parcours atypiques racontés par des femmes. N'oubliez pas de visiter notre site web madameinnove.com. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de partir à la rencontre de Mathilde. Féministe au grand cœur et surtout très attachée à l'humain, Mathilde nous raconte son parcours professionnel et nous parle de lâcher prise et de bien-être au travail. Vaste sujet. Découvrez vite son témoignage. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Mathilde. Mathilde, qui es-tu ?
Bonjour à tous. Alors, qui je suis ? Je suis une aventurière de la vie à la découverte du bonheur au travail. Parce qu'aujourd'hui, je suis Chief Happiness Officer.
Très bien, et du coup ça consiste en quoi ?
Alors ça consiste à apporter une vraie réflexion sur notre nouvelle méthode de travail, d'apporter un petit peu de bienveillance et de réflexion sur la façon dont on peut entreprendre, dont on peut travailler ensemble, dont on peut collaborer ensemble.
D'accord. Et dans ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à ce métier-là ?
Alors moi j'ai toujours voulu avoir un travail qui a du sens. J'ai fait un master de management en économie sociale et solidaire, donc j'ai porté une vraie réflexion là-dessus. Et donc j'ai un peu parcouru le monde, donc au Canada, en Afrique, en Argentine, enfin j'ai Afrique, mais au Burkina Faso, et en Italie. Et j'avais remarqué qu'au Canada, ils avaient des méthodes de travail différentes, une approche au niveau du management qui était très intéressante. Et je constatais qu'à travers mes expériences professionnelles, même dans le cadre associatif, même si j'y voyais du sens, je trouvais que l'humain qui était au cœur de l'activité, je ne ressentais pas que l'humain en tant que salarié était écouté, était entendu, était respecté. Donc ça résonnait vraiment très fort en moi en me disant mais il y a quelque chose à agir. Je voyais beaucoup d'amis autour de moi qui souffraient au travail, donc je me suis dit il y a quelque chose à faire, on ne peut pas continuer ainsi.
Et du coup concrètement au quotidien ça veut dire quoi être Chief Happiness Officer ?
Alors ça dépend de la structure dans laquelle on se trouve. Je pense que c'est quelque chose qu'on a en soi. C'est quelqu'un qui va être le facilitateur, qui va être à l'écoute des salariés, qui va essayer de faire remonter les informations, qui va essayer de repenser l'espace de travail, qui va essayer d'améliorer les process de chacun pour pouvoir être entendu et de pouvoir améliorer les choses, d'écouter chacun pour pouvoir organiser des événements qui les rassemblent, d'amener la culture de l'entreprise, d'amener une vision un petit peu qui rayonne autour. Donc c'est un peu la communication interne, la gestion de projet et voilà, des RH internes aussi. Donc il y a plein d'événements à mettre en place. Ça c'est vraiment propre je pense à la personne et c'est vraiment une personnalité qui connecte un petit peu les personnes entre elles.
Et quelles sont les valeurs que tu essayes de véhiculer en tant que CHO dans les entreprises dans lesquelles tu as pu travailler ?
Alors moi ce qui est important pour moi c'est la bienveillance. Ça, c'est-à-dire qu'on se sent bien, qu'on se sent soi-même, être soi, l'écoute et le respect, ça c'est très important, le respect des différences. Voilà, je suis différent, mais je peux le montrer, je me cache pas derrière qui je suis. Et justement, cette différence, elle peut apporter. Elle peut apporter un regard différent, un éclairage différent. Donc ça, c'est très important pour moi. Après, dans le travail, je ne sais pas, mais moi personnellement, la justice, ça c'est... Le mot justice et liberté aussi résonne, se sentir libre d'aller au travail, c'est-à-dire que voilà, j'ai choisi le métier qui me plaît, je suis animée par les mêmes valeurs des gens avec qui je travaille, et voilà, je me sens moi-même. Et donc là, on se sent juste parce qu'on se sent voilà, à sa place.
Et si tu devais nous citer une expérience marquante, peut-être une difficulté que tu as pu rencontrer dans ton parcours de vie professionnelle ou perso ?
Alors une expérience difficile, elle s'est passée il n'y a pas très longtemps, elle s'est passée il y a maintenant, on va dire, même pas 2 ans. J'ai eu la chance, je revenais en France. Et donc déjà, il y a le fait de revenir, c'est pas toujours évident, parce qu'on était avec des codes différents, on a regardé quelque chose qui... un autre fonctionnement, une autre approche, de la façon d'aborder les autres, la façon de travailler ensemble. Parce que je revenais tout juste de l'Italie, mais juste avant, j'étais au Canada. Et j'ai eu la chance d'avoir un métier passionnant. J'étais vraiment en contact de millions d'entrepreneurs. Voilà, j'allais un peu à droite à gauche. Donc j'avais quelque chose qui me portait, qui m'animait, où j'y voyais vraiment du sens. Et à la fois, j'étais dans une structure auquel je partageais pas les valeurs, la cohésion, la vision. Il y avait quelque chose qui me déconnectait.
Il y
avait un contraste réel entre même le discours que j'entendais, parce qu'il y a toujours le discours qu'on voit, et la structure en interne. Je l'ai vraiment vécu comme quelque chose de frustrant. Je voyais une grande frustration en moi parce que j'avais beaucoup de difficultés à avoir mes activités à côté. Ça, par exemple, on regardait beaucoup le temps horaire qu'on faisait et moins les projets qu'on réalisait. Un management très hiérarchique, d'autres points de vue, un peu sexiste aussi de temps en temps. Et en fait, moi j'ai reçu. Pendant des mois, j'allais pas bien et un jour j'ai compris pourquoi. Et en fait, j'avais des collègues qui passaient leur temps à m'insulter sur le chat professionnel. Ça a été un choc parce que j'ai compris que ça faisait des mois où j'étais dans un open space et en fait, on me donnait pas des dossiers pour que je me plante. Enfin, on faisait en sorte que l'environnement de travail soit très lourd et ça, on le ressent. Ces insultes-là, on les ressent, elles sont très prenantes. Et donc, j'ai annoncé ça à ma direction. Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient selon eux. Selon moi, je me suis pas entendue du tout considérée, écoutée. Et ça a été super difficile de reprendre mes fonctions juste après. Et ça a été très long parce qu'en fait, j'avais du mal à postuler, j'avais du mal à avancer.
Ouais, parce que ça t'avait détruite.
Ouais, j'étais détruite
psychologiquement.
De reprendre confiance. Et c'est super difficile de partir en justice lorsque c'est une association. Parce que c'est une petite structure et on se dit, si on part, on porte un message, on va détruire aussi tout fonctionnement alors qu'ils aident des millions de personnes. Et on se dit, mais moi, il n'y a que moi là-dedans, et est-ce que je veux vraiment défendre ce projet? Et dans quoi je vais m'embarquer? Je vais partir 3 ans en procédure, j'ai pas les sous, j'ai pas les finances. Mmh. Et je suis tombée extrêmement malade en fait. En une semaine, j'ai perdu 8 kilos, et là c'était vraiment, j'arrivais à mes limites quoi. Et
je me suis dit. Physiquement, ton corps il parlait pour toi.
Ouais, j'ai une rage de dents, j'ai perdu, enfin je pouvais plus rien avaler. Ça m'a coûté très cher aussi en plus. Parce que j'ai pas une bonne mutuelle à l'époque. Très important maintenant, hyper important. Et parce qu'on se rend compte que la santé en fait c'est essentiel et des fois on a des limites, on n'arrive pas et j'avais l'impression d'être à mon propre piège, d'être complètement piégée par ça, par ce fonctionnement, alors qu'à l'extérieur il fallait montrer une bonne image, il fallait que ça aille. Et donc ça a été hyper bloquant et là j'ai fait le pas de démissionner. Donc j'ai négocié ma rupture. Ça, c'était lourd pour moi en tant que première expérience. C'était vraiment dur.
Ta première expérience professionnelle?
Ouais. D'accord. Enfin, après, j'étais en stage, j'étais aux études, donc je faisais des stages,
d'accord,
etc. Mais là, c'était vraiment la première grosse expérience professionnelle.
D'accord.
Et donc, à la suite de ça, en fait, je suis partie. Et au même moment où c'était dur émotionnellement, j'étais malade, etc., j'ai voulu changer les idées, je suis arrivée à Nice le 14 juillet. Sur la promenade des Anglais.
Oh non.
Donc en fait, c'était un double choc, électrochoc, etc. Et moi, je voulais être super battante, je postulais, j'allais aux entretiens, mais les gens ressentaient en fait que j'allais pas bien, ils sentaient que j'étais mal, je pense qu'ils sentaient. Et moi, dans ma tête, c'était hors de question, je voulais pas m'arrêter, j'étais dans le rythme parisien, à courir partout, et je voulais pas entendre que j'allais pas bien. C'était un peu la honte de se retrouver sans rien, alors que j'avais rencontré des millions de personnes, et puis là, tout d'un coup, je me retrouvais dans le vide. On a vraiment cette sensation-là. Donc j'ai quand même pris les vacances, j'ai repassé des entretiens et je me sentais pas connectée, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, ça résonnait pas en moi, je savais pas quelle direction je voulais aller, enfin je venais souvent perdue en fait, quand c'est vraiment difficile, on sait plus en fait, on sait plus ce qu'on veut faire, parce qu'on a passé du temps à être dans le noir.
Plus l'envie non plus aussi, non?
Plus l'envie, oui et non, mais je pense qu'on a besoin de repos en fait, on est surtout
corps,
super fatigué.
Ouais.
Et donc je suis partie faire les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, donc je suis partie de ça.
Avec ton sac à dos.
Avec mon sac à dos, en me disant, je fais le vide, là j'ai du temps.
Tu fais une randonnée pédestre?
Les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est des chemins où tu peux partir par exemple de la ville où tu habites, donc Paris, et aller jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne. C'est un chemin spirituel.
D'accord.
Enfin, qui est originellement catholique, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas aussi croyants, enfin plutôt spirituels, et c'est un chemin où il y a des gens qui marchent pendant 3-4 mois, qui partent de Pologne ou des 4 coins de l'Europe. Et c'est un chemin où tu croises beaucoup de gens sur ton chemin, ou si tu veux marcher seul ou pas, tu t'arrêtes. C'est vraiment un chemin pour faire le vide. Je vous le conseille d'ailleurs. Et moi, en fait, ce qui s'est passé, j'ai rencontré des gens incroyables, passionnants. C'était... Et je me suis très vite fait une entorse et une tendinite. Et pourquoi? Là, on me disait, mais là, il faut que tu t'arrêtes. Stop, là, tu n'as pas le choix. Et c'est un message. Et donc je me suis arrêtée, je suis allée voir le médecin, il me dit et là au moins pendant 3 semaines vous ne bougez pas, vous êtes au lit, la seule solution c'est de pas rester.
Et t'étais où à ce moment-là quand ça t'est arrivé?
Sur les chemins de Saint-Jacques.
Ouais, à quel endroit tu t'es arrêtée? T'étais loin de chez toi, enfin t'étais loin de Paris ou...
Ouais, j'étais en fait les chemins. Je suis pas partie de Paris. Je suis partie dans le Cantal en fait.
D'accord.
Donc voilà. Et donc oui, après j'ai rejoint parce que ma sœur elle habite par là-bas, pas très loin, donc j'ai pris un train et après je suis revenue sur Paris. Et donc voilà, et donc ça m'a fait un beau message. Stop, arrête-toi. Donc le message que je peux faire passer, c'est aussi des fois savoir s'arrêter. C'est pas grave si voilà, il y a des moments de trou, il faut aussi pouvoir se reconnecter et ça fait du bien.
Et écouter son corps aussi.
Ouais, écouter son corps. Pour pouvoir se recentrer et faire le vide. Sinon, on repart dans une direction qui ne nous correspond pas et on reste de revivre des choses peut-être similaires ou différentes. Mais vraiment, en France, on a la chance d'avoir un chômage si on a travaillé avant. Et ça, c'est un privilège, même si on gagne beaucoup moins d'argent qu'avant. C'est un privilège qu'on n'a pas dans... Il faut le voir vraiment comme du temps qu'on peut s'accorder si on a vécu ce genre de situation. Des fois, on peut rebondir très rapidement. Mais aussi, voilà, c'est quand même un privilège qu'on a de pouvoir s'accorder du temps, sachant qu'on peut payer son loyer avec si on peut. Enfin, moi, je n'ai pas d'enfant, et donc c'était le cas. Et donc, voilà. Et après, je suis partie en Inde, en fait.
Et pourquoi voilà. L'Inde?
Pourquoi l'Inde? Parce que j'avais mes collègues qui vivaient en Inde, en fait. Et ils me disaient, mais il faut que tu partes là-bas. Eux, ils vivaient dans un ashram.
Yeah.
Et donc, moi, je n'étais pas du tout... Bon, ça ne m'intéressait pas vraiment. Je n'ai jamais vraiment été intéressée pour partir en Inde. Et puis là, je me suis dit, mais j'ai rien à perdre. Allez,
il faut y aller.
Partir. Et là, j'ai voyagé avec une dame qui s'appelle Ama. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une dame qui prend des millions de gens dans ses bras et qui prend de l'amour, la bienveillance. Et j'ai voyagé avec elle pendant un mois. Voilà, en fait, je suis arrivée donc, dans l'ashram. Moi, je voulais bouger, je voulais voyager. Parce que mes amis vivaient là-bas. Je n'avais pas vraiment envie de rester dans l'ashram. Ce n'était pas spécialement mon truc. Et on me dit, bah, si tu veux, cette dame va voyager, va faire un tour de l'Inde. Enfin, voilà, y a plusieurs personnes qui vont l'accompagner. Quand même 300 personnes. Et c'est le moment de connaître des endroits de l'Inde un petit peu différents. Donc, je suis partie comme ça et j'ai suivi cette dame. Donc voilà, c'était super intéressant, pertinent, et ça m'a vraiment changé les idées. Donc ça, c'est vraiment aussi un moment qu'on a un moment difficile. Bah, faire le vide, si on peut se permettre. Moi, mon moteur, c'est les voyages. Et après, je suis revenue, j'ai fait une formation, parce que ce qui m'intéressait, c'était la communication. Mais je voyais qu'il n'y avait pas que la communication pour faire la communication comme on l'entend, mais quelque chose, passer des messages, faire des choses. Et là, j'ai vu une offre de Chief Happiness Officer, et ça a été un déclic. Je me suis dit, mais je veux ce boulot, c'est exactement ce que je veux. Faire passer, voilà, moi j'ai vécu une souffrance au travail pendant 2 ans parce que je me suis pas sentie écoutée, entendue. On n'a pas entendu mon malaise, mon mal-être. Et des fois, c'est très peu de choses qui peuvent changer en fait. Déjà de se sentir écoutée, se sentir épaulée, qu'on remonte à que la personne nous accompagne dans ces événements.
Avoir un peu de reconnaissance.
Avoir la reconnaissance et que aussi les attentes des salariés, surtout là, l'enjeu, il y a plein de salariés qui ont plein d'idées. Et le fait de pouvoir les écouter, de reconnecter les personnes ensemble, d'amener les idées, d'être un peu le rôle de facilitateur, de connecteur, ça met en place énormément de choses et de synergies qui font que l'environnement de travail est beaucoup plus sain. Parce que souvent dans les petites structures, si on peut avoir un manager, il est souvent le dirigeant aussi, il n'a pas le temps. Partout. Donc il faut aussi accorder ça qu'eux, ils n'ont pas le temps et ils ne regardent pas ça. Et une personne qui s'occupe vraiment de l'équipe. Et donc ça avait un rôle très fort pour moi. Donc voilà, donc la difficulté que j'ai eue, bah voilà, ça a ressorti que pour moi, l'importance aujourd'hui, et je veux vraiment travailler là-dessus, c'est bah, comment on se sent bien dans son travail, comment on peut améliorer le quotidien des personnes dans leur environnement de travail, parce que voilà, je suis allée voir des médecins aussi, je pense qu'il y a urgence et beaucoup de vie, on peut l'entendre tous autour de nous, qu'il y a beaucoup de gens qui ne se sentent pas bien dans leur quotidien de travail, et pourtant on passe énormément de temps.
L'esprit a une incidence énorme sur le corps et ça, on peut se créer des maladies, des malaises, parce qu'on se sent mal à l'aise, pas à sa place. On a tendance à l'oublier, ouais.
Ouais, complètement, ouais.
On passe énormément de temps au travail, enfin, les journées sont longues, quoi. Parfois on passe plus de temps au travail qu'à la maison, donc faut que
ça. Moi j'avais la sensation de perdre mon âme, c'est très bizarre, de perdre mon âme, j'avais plus d'énergie. Alors qu'avant je faisais beaucoup de choses, je faisais beaucoup d'actions, et là tout me menait 3 fois plus de temps. Et ça, c'est assez incroyable, en fait, de dire que c'est pesant, c'est lourd, et puis...
Toute ton énergie est vidée, quoi.
On se sent vidé. On se sent vidé, c'est vraiment la sensation. Et je le souhaite vraiment à personne. Et je pense qu'il y a, plein de choses à faire sur ce point-là.
Donc du coup, là, tu nous as un petit peu raconté la manière dont tu as surmonté ta difficulté. Et dans tout ton parcours que tu viens de nous raconter, est-ce qu'il n'y a pas un succès qui a été plus marquant qu'un autre ? Est-ce que pour toi c'est le fait de partir en Inde, d'avoir eu le courage, ou alors de postuler au poste de CHO, ou peut-être une action que tu as fait en tant que CHO?
Alors il y a des mini-succès, mais souvent qui sont groupés. Une dernière qui m'a vraiment... j'ai trouvé ça super chouette. En fait, dans la structure où je travaillais, c'était une structure qui a en France pas une super belle réputation. Pourtant, quand on y rentre, on voit plein de belles personnes et une envie d'agir qui est incroyable. Et cette expérience était vraiment super. Et moi, c'était un incubateur, donc il y avait un espace de travail avec des personnes aussi qui étaient au siège, donc voilà, qui ont grandi, qui ont voilà, 40 ans, 30 ans d'expérience dans ce modèle de travail. Et l'idée, moi, j'ai eu envie de repenser le lieu en faisant des portraits photos. Mais des portraits photos en disant, bah, chacun imagine son métier comme il l'entend aujourd'hui, voilà, en fonction du projet qu'il fait. Donc voilà, les mettre vraiment, et puis après j'avais mis ça sous forme de Polaroid avec des hashtags. Et vraiment, bah, les gens, je les ai, voilà, il y a quelqu'un qui s'appelait, voilà, qui disait la bonne formation, des post-it partout sur la tête, et en disant, voilà, avec des poses complètement loufoques, mais qui montraient un peu son côté décalé, et sachant que nous, on a quand même les médias qui passent, il y a les France 2, etc., donc ils vont filmer tous ces visuels. Et au départ, dans le siège, je me disais, mais ça fait un peu foufou, non, je ne vais pas. Enfin, ouais, parce que ce n'était pas du tout le modèle dans lequel bah, ils ont été. Et on voit après le résultat, un lâcher-prise et un regard différent. Et déjà, on arrive dans le lieu, puis on voit tous ces portraits de gens qui imaginent ça. Donc moi, voilà, je vois mes succès, j'adore la photo, j'aime les mettre en image des gens, puis les mettre en valeur à travers un côté qui les met en valeur, mais un peu décalé.
Un côté créatif aussi.
Ouais, un côté créatif. Qui reste pas souvent, on a un modèle professionnel, on est très sérieux,
oui, c'est
on
vrai.
Ça. Du coup, on n'a pas du tout envie de parler à cette personne. Et quand on arrive dans un lieu, on voit les gens, ils sont animés, lâche prise, il n'y a plus de hiérarchie. Et voilà, c'est un mini succès où je me suis beaucoup amusée à le faire et je trouve qu'en fait, il y a un message très fort qui est derrière. Quoi.
C'est peut-être ça aussi, le bien-être au travail. En tout cas, je pense que ça y contribue. Le fait de mettre de la bonne humeur dans un lieu, dans des équipes, et ça peut aussi passer par des méthodes un peu rigolotes, de l'art, de la créativité.
Ouais, complètement. En fait, c'est vraiment... C'est pour ça que c'est un métier qui, aujourd'hui, commence. Je pense qu'à chaque fois, il y a peut-être d'autres personnes qui faisaient ce rôle inconsciemment dans les équipes, pour mettre du lien, etc. Mais c'est vraiment un... Voilà, il est là pour... mettre en valeur les autres et les connecter, en fait. Et ça, c'est des petits messages qu'on peut avoir dans un lieu qui soit personnel aussi, ce lieu. Ça soit un lieu personnel avec les gens qui y vivent, et ça, c'est super important.
Et finalement, personne ne t'a formé à ce métier. Personne ne t'a dit, voilà, en tant que CHO, tu vas faire ceci, ceci, cela. Alors, j'imagine que tu avais une fiche de poste initialement, mais tu l'as appris, ce métier, tu l'as modelé.
Tu crées ton poste, finalement, non ?
Moi, j'ai eu la chance, vraiment, je remercie ma manager et les personnes qui ont été dans mon équipe, parce que vraiment, ils testaient aussi et ils m'ont laissé une grande marge de manœuvre. Donc, bien sûr qu'il y a quelque chose, on anime un lieu, donc il y a tout un aspect administratif, logistique qui est présent. Donc, il faut l'entendre, ça aussi. Mais ils m'ont laissé aussi carte blanche, et donc j'ai eu la chance de pouvoir l'organiser comme je souhaitais et mettre en place les projets, et ils étaient à l'écoute aussi. Donc je pense qu'aujourd'hui j'ai vu d'autres offres de CHO, et je suis un peu sceptique des fois parce que j'ai l'impression qu'ils veulent remplacer une assistante administrative. C'est pas ça aussi. Il y a aussi cette marge de manœuvre, je pense que c'est une personnalité. Il y a des profils un peu comme ça, qui aiment faire des synergies entre les personnes, qui aiment bien connecter, mettre un peu de bonne humeur, réfléchir là-dessus. Enfin, c'est un profil de personne au-delà d'un... Ouais, il y en a qui adorent organiser des événements, qui sont dans ce lien, au-delà d'une formation ou d'un métier. Donc voilà, je pense que voilà, c'est vraiment un savoir-être aussi également. Puis laisser cette marge de manœuvre d'être soi-même et de dire, voilà, ouais, je te laisse carte blanche... Et tu peux créer ce que tu penses bon pour la structure.
Et qu'est-ce que tu penses du fait, parce que j'ai lu pas mal de choses sur les Chief Happiness Officers, et il y a certains journalistes qui critiquent cette pratique en disant que, c'est une manière ou une autre pour les salariés de rester plus longtemps, qu'ils aient envie de rester encore plus longtemps au travail pour améliorer aussi leur productivité et qu'ils restent plus longtemps pour travailler plus. Qu'est-ce que tu penses de ça ?
En fait, je pense que il y a toujours des critiques sur une nouvelle chose, et puis elles sont importantes, les critiques. Quelque chose qui est important, c'est que le style à chaud, selon moi, c'est pas des baby-foot, c'est pas... Enfin, voilà, tout cet aspect...
C'est pas les fat boys, là, les...
Ouais,
les
voilà, c'est, ça, c'est un plaisir, en fait. Mais c'est pas ça qui va rendre les gens heureux. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas spécialement ça, être en groupe, ils préfèrent être isolés. C'est pas ça le rôle du chief happiness officer. Après, ça dépend quel chief happiness officer on veut être et dans quelle structure on est. Moi, il s'avère que j'étais dans une structure aussi, il y a des personnes qui étaient papa, maman. Donc le soir, il ne peut pas être à des bières le soir jusqu'à pas d'heure. C'est pas le projet qui... Donc c'est vraiment entendre ça et organiser des projets au sein de la structure et travailler sur... Je pense qu'ils n'ont pas compris ce qu'était le message du chief happiness officer. C'est un quotidien. C'est pendant les horaires du travail, tu travailles, tu peux organiser, tu crées du lien, tu amènes de l'écoute, de la bienveillance, des actions, tu mets en place des actions pour faciliter le rôle de chacun. Tu es vraiment un facilitateur. Donc je pense qu'ils ont un peu ce regard, et ça dépend de la structure, le regard de chief happiness officer en mode start-up. On boit des bières tard le soir et on organise des événements comme ça. Voilà, moi je porte pas ce regard-là, mais je l'entends, je le comprends.
Okay. Certains le voient aussi comme une action de communication externe pour les boîtes. Moi j'ai nommé un chief happiness officer, du coup dans ma boîte mes salariés se sentent heureux, mais c'est effectivement pas que la nomination de quelqu'un ou que l'achat de baby-foot qui fait que les gens se sentent bien. Donc les actions de com peuvent aussi biaiser un petit peu ce regard.
Bah, c'est un état d'esprit, en fait. C'est ça. En fait, c'est un peu changer un peu les pensées de chacun. C'est ça. C'est un peu penser le regard de chacun. Donc, effectivement, si on voit ça que pour la com, j'ai un petit happiness officer. Et après, moi, j'ai vu dans des offres, et c'est qu'un rôle d'assistante, y a une frustration qui va se créer. C'est pas ça le rôle. Et vraiment, c'est un peu... Voilà, quand on fait des connexions entre les gens, ramener une pensée différente et amener un état d'esprit différent.
Et toi, du coup, dans ton parcours professionnel ou personnel, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a inspiré, un livre, un film ou une personne qui t'a inspiré dans ton parcours ?
Dans mon parcours professionnel ou dans mon parcours...
Ou personnel, parce que tu m'as parlé de... Ouais. Tu nous as parlé de Alma, c'est ça ?
Alma,
pardon. qui a été plutôt inspirante pour toi. Est-ce qu'il y a...
Elle est inspirante, mais finalement... Oui, enfin, je ne sais pas. Qu'est-ce qui m'a marqué ? Moi, je suis très cinéphile et il y a je veux dire, c'est plutôt cette période d'adolescence où, qui m'a marquée. Il y a un livre, alors ça va être un peu étonnant ce livre, mais invite. C'est une vie de Maupassant, parce que c'est l'histoire d'une femme qui a plein d'attentes, qui est jeune, et en fait, je sais pas si vous l'avez lu.
Non.
Et en fait, donc elle épouse cet homme, elle est dans une situation assez riche, et en fait, elle a une première semaine, de mes souvenirs, parce que je l'ai lu, une semaine un peu fabuleuse, et après.
Désillusion
totale, et voilà, il passe son temps à la tromper. Et puis elle, en fait, son rôle, c'est d'être femme, c'est d'être la femme d'eux, et puis d'avoir des enfants, mais qu'elle s'occupe même pas. Et elle passe toute sa vie hyper frustrée. Et c'est une vie où tu ne fais rien. Et elle a rien fait de sa vie. Et c'est aussi le. Et je me rappelle avoir lu ça et me disant, mais c'est horrible quoi, enfin, c'est horrible d'être dans cette prison un peu
dorée.
Ce qui est le statut de beaucoup de femmes aussi encore. Voilà, on est femme à la maison et on a ce statut-là. Et en fait, on est complètement bloqué par le statut qu'on a. Et en fait, on est extrêmement malheureuse. Donc ça, c'était un message en me disant, mais non, mais c'est pas possible. Il y a quelque chose à faire. Il y a même dans notre pensée, dans la façon dont on a été éduquée, on a un héritage qui est hyper lointain par rapport à ça. Et il faut qu'on se détache de tout ça. Mais il y a encore du boulot, il y a encore du travail.
C'est vrai.
Et même moi, je le ressens. Des fois, j'ai plein de blocages, plein de choses. Mais c'est aussi que quand je vois mes grands-mères, mes arrière-grands-mères, il y a toute une histoire qui est derrière, quoi, le rôle qu'on leur a donné et ce qui arrive aujourd'hui. Donc ça, c'est un bouquin marquant qui relève de la frustration. Souvent, c'est des choses qui relèvent de la frustration des femmes qui ont pas pu oser. Après, on ose ou pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui était trop fort.
Pour passer.
Il y a des femmes qui auraient su à enlever les mains. Sinon, il y a d'autres films qui m'ont marqué. J'ai adoré le film Thelma et Louise.
Ah oui.
C'est un film culte. Je me rappelle, je l'ai vu, je sais pas, j'avais 16 ans, 15 ans, et ça m'a vachement marqué, cette notion de liberté, de vouloir. Aussi, c'est des femmes qui sont frustrées, qui en ont marre et qui à un moment partent.
Partent en voiture, faire une expérience fabuleuse à deux, deux super nanas.
Ouais, incroyable, avec un paysage incroyable. Et puis, il leur arrive une aventure malheureuse. C'est aussi cette histoire, bah, je suis une femme, je prends ma liberté, et pam, il m'arrive un pépin. Et en fait, parce que je suis femme, il m'arrive un pépin. Et comment je me défais de tout ça? Et c'est aussi cette question, mince, j'ose enfin prendre la liberté
et ça me retombe dessus.
Et c'est difficile, quoi. Parce que aussi la société, on dit, voilà, il faut oser, mais n'empêche que c'est super difficile. Parce que, voilà, des fois, on n'est pas dans un environnement, je vais être négative, mais encore complètement propice au fait qu'on peut prendre notre... Enfin, la liberté est difficile à avoir, quoi. Et donc, voilà, ces deux films, enfin, voilà, je citerai ça après, il y en a plein, plein d'autres, mais...
Super. Ouais.
D'ailleurs, si cette notion de se déprogrammer de ce que des normes de la société, etc. Avec Mégane, nous sommes en train de lire les accords Toltec qui parlent de ce justement de tout ce qui est dicté par la société, de ce qu'on croit être des vérités, mais en fait c'est simplement des choses qu'on nous dicte, mais qui ne sont pas vraies en soi.
Ouais.
On te le conseille si tu cherches quelque chose à dire, on pourra te le prêter à l'occasion. Voilà. Mathilde, arrive une question fatidique, fatidique en tout cas, qui est précieuse pour nous. Si tu avais un ou deux conseils à donner à nos auditeurs, nos auditrices qui aimeraient eux aussi se lancer, croire en leur projet, franchir le pas, quels seraient-ils ?
Je pense qu'un enjeu premier, c'est d'apprendre à se connaître, bien se connaître. C'est un long travail, un long cheminement, mais après ça permet de savoir ses limites, dans quelle direction on veut aller. Sa vision aussi, et de se connecter avec les bonnes personnes. Donc voilà, et après je pense qu'une fois que ça est mis en place, on peut aller beaucoup plus loin et oser comme vous le faites super bien. Je pense que aussi c'est une connexion aussi qui s'est faite, qui permet d'aller beaucoup plus loin et puis de se faire plaisir, d'oser en faisant des projets qui nous animent.
Et toi, du coup, de quelle manière tu oses?
Alors moi, j'ai plein de pas à franchir, hein. Même je vois, je suis dans mes limites. J'ose en voyageant, j'ai pas peur de voyager toute seule. Je pense que là, voilà, j'ai commencé très tôt au départ, j'en étais terrorisée, j'avais peur la veille de partir quelque part. Et je vois bien que quand on a fait un premier pas, en fait, on n'a plus peur après, etc. Donc voilà, là, je repars au Canada vivre au mois de septembre.
Gros voyage, du coup.
Ouais, non, je pars vivre 2 ans normalement. Après, peut-être plus, on verra. Voilà, là l'enjeu ça sera plus un voyage pour voyager ou faire une expérience d'études, mais pour y travailler. Donc c'est aussi rechercher un, voilà, là le oser travailler dans un autre pays, faire des connexions différentes. Donc voilà, c'est ma manière.
Et pourquoi le Canada?
Pourquoi le Canada? Parce que je me suis jamais, dans tous les pays que j'ai fait, je me suis jamais sentie aussi libre en tant que femme. Et aujourd'hui j'ai envie de paix, et je sais que même si je veux agir auprès des femmes, cette action-là, moi j'ai besoin de me préserver. Et je sais que dans le milieu professionnel, même si c'est pas parfait, il y a plein de choses. Et puis j'ai mon regard critique, il y a des choses énormes, plein de choses qui me manquent en France. Mais je sais que là-dessus, je me suis jamais sentie aussi libre de pouvoir marcher dans la rue, d'être moi-même, de travailler, considérer comme une personne. En fait, cette liberté, c'est tellement enrichissant. Enfin, je sais pas, enrichissant, mais en fait, on se rend compte que même malgré tout, on le voit pas en France, on a tellement de petites violences au quotidien. Et quand on s'enlève tout ça, en fait, c'est que du bonheur. Donc voilà pourquoi le Canada.
D'accord.
Je m'y attendais pas, mais voilà pourquoi le Canada.
Super. Bon, merci beaucoup pour ton témoignage, Mathilde. Je pense que ça pourra parler à beaucoup, beaucoup de nos auditrices.
Bah, merci à vous.
Petite question pour terminer. Est-ce que tu as une recherche particulière? Est-ce que parmi nos auditeurs, auditrices, est-ce que tu as un mot à faire passer, une recherche pour ton voyage, pour ton prochain emploi sur place au Canada ou autre? N'hésite pas, c'est le moment.
Ah ben, ben là je pars au Canada, donc je vais être à la recherche d'une super opportunité, et notamment dans les réflexions de travailler ensemble, de collaborer ensemble sur tout ce qui est le bonheur au travail, mais au sens... le bonheur comme je l'entends, quoi. Pas le baby-foot, le sens, mais le... Pourquoi pas, après, mais le cœur. Et voilà, donc ça m'intéresse vraiment. Donc s'il y a des personnes qui collaborent là-dessus, bah, je serais intéressée, même en France, hein, de discuter avec eux et puis de voir voilà, s'il y a des projets qui peuvent se mettre en place.
Super.
Eh bien, le message est passé. Chers auditeurs, n'hésitez pas à contacter Mathilde. Et merci encore pour ton témoignage.
Merci.
À bientôt.
À bientôt.
Nous sommes ravis d'avoir rencontré Mathilde et découvert son parcours courageux et atypique. Le bien-être au travail est un sujet d'actualité, bien souvent laissé à la trappe. Et il faut des gens comme Mathilde pour redynamiser les équipes, les fédérer et leur apporter du peps au quotidien. Pour cette interview, cette fois-ci, nous avons eu la chance de nous installer chez Boco, un petit restaurant situé à Neuilly-sur-Seine. Nous vous recommandons chaudement l'endroit, l'équipe y est très sympa. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et une note sur iTunes. Nous sommes preneuses de vos feedbacks pour continuellement améliorer nos podcasts. À très vite pour de nouvelles aventures.